appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous à l'issue de la troisième conférence des gouverneurs tenue la semaine dernière à Kananga. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres l'engagement du gouvernement congolais d'allouer des fonds aux gouverneurs pour leur budget d'investissement. Parole aux auditeurs en parle tout à l'heure, donc avec comme question, pensez-vous que cet engagement du gouvernement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations? Composez les 081, mesdames et messieurs, 890-63-15 pour participer à cet échange. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Mputu, Pierre Lamégie et Sylvain Matundu réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, il s'est tenu à Kananga, comme je l'ai dit, du 18 au 19 mars 2013, la troisième session de la conférence des gouverneurs de province sous la présidence de son Excellence Monsieur Joseph Kabila. Nous avons en ligne Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, qui va échanger avec nous et aussi orienter nos contributions et nos différentes inquiétudes par rapport à la question. Et on nous signale qu'il est également porte-parole de cette conférence de gouverneurs. Monsieur Julien Paluku, bonjour. Oui, monsieur le gouverneur, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, les temps pour nous de reprendre le gouverneur. Nous rappelons, chers auditeurs, qu'à l'issue de la troisième conférence des gouverneurs, tenue donc la semaine dernière à Kananga, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres l'engagement du gouvernement congolais d'allouer des fonds au gouvernement pour leur budget d'investissement. Et nous débattons de cette question avec comme question principale: pensez-vous que cet engagement du gouvernement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations? Donc, vous pouvez participer à cet échange en composant le 081-890-63-15 pour participer à cet échange. Et vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs.
Nous lisons la première réaction, la lettre d'un auditeur qui nous a écrit, Franck, qui nous a écrit de Vienne, en Autriche, qui dit « C'est très nécessaire que les gouverneurs de nos différentes provinces se rencontrent en vue des échanges citoyens. Pour cela, plusieurs recommandations ont été faites lors de cette troisième conférence des gouverneurs. Elles sont urgentes pour la vie de la nation et nous croyons qu'on doit d'abord les concrétiser à base d'une volonté manifeste, sinon elle risque de rester lettre morte. » Ça, c'est Franck de Vienne qui souhaite que toutes les recommandations formulées au cours de cette conférence des gouverneurs puissent être appliquées, sinon elle risque de rester lettre morte. Nous avons en ligne Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, qui est en ligne et qui va nous permettre d'avoir une idée sur cette troisième session de la conférence de gouverneurs. Nous les rejoignons donc, il est en ligne. Bonjour, monsieur le gouverneur.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Voilà, la conférence des gouverneurs est constitutionnelle, on le sait, elle en est même à sa troisième session, comme je viens de le dire. En quoi cette dernière est différente en contenu donc par rapport aux deux précédentes sessions?
Oui, merci beaucoup. Je pense que la spécificité de la conférence des gouverneurs tenue à Kananga du 18 au 19 mars de cette année 2013 est que et cette conférence a tablé spécialement sur le transfert de compétences au niveau des provinces. Transfert de qui dit transfert de compétences suppose également transfert de charges et transfert de ressources. Vous savez que depuis 2007 que tous les gouverneurs ont été élus, jusque-là, les provinces ne fonctionnaient qu'avec le budget de fonctionnement qui leur était envoyé par le pouvoir central au titre des rétrocessions, comme c'est le terme qui avait été adopté lors de la Constitution. Le terme qui est utilisé, c'est la retenue à la source. Donc, depuis 2007, ça fait 6 ans maintenant, les provinces ne fonctionnaient qu'avec le fonctionnement. Tout ce qu'on leur transmettait de Kinshasa, c'était uniquement le fonctionnement, même si certaines étaient en train d'utiliser ces fonds pour les investissements. Donc, à Kananga, on a convenu désormais que le pouvoir central va désormais transférer et le fonctionnement et les montants d'investissement pour permettre aux provinces de commencer eux-mêmes à gérer leurs investissements, à faire des projets et à devoir les exécuter eux-mêmes à travers les structures de contrôle des marchés publics qui seront désormais basées en province. Voilà la spécificité de la conférence de Kananga.
Est-ce que pensez-vous que cette spécificité constituera quand même une valeur ajoutée autour des conditions de vie des populations vivant dans les provinces?
Oui, je le pense bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle depuis le vendredi 23 jusqu'à ce jour 26 mars, les experts et nous-mêmes, nous sommes dans le ministère du budget pour essayer un peu de mettre en place tous les outils nécessaires qui permettraient effectivement de transférer ces fonds-là. Et parmi les grands préalables, c'est que il faudrait qu'au niveau de toutes les provinces, les assemblées provinciales puissent voter les édits qui mettent en place les structures de marchés publics. C'est-à-dire, il faut que tous les marchés publics soient réglementés au niveau de la province pour que la passation des marchés ne se fasse pas de gré à gré. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faudrait que, au-delà de l'édit provincial qui est voté dans chaque province, que le gouverneur signe un arrêté qui met en place les cellules de passation des marchés publics pour éviter effectivement l'arbitraire. Donc, voilà pourquoi tous les gouverneurs se retrouvent auprès de la vice-primature du budget pour mettre en place tous ces outils, et cela permettra effectivement d'amener une valeur ajoutée, parce que désormais les fonds qui seront alloués aux provinces ne vont pas être dilués dans le fonctionnement des institutions, mais seront spécialement orientés vers les problèmes qui touchent à la vie de la population. C'est la raison pour laquelle j'admets avec vous que cette disposition va amener une valeur ajoutée à la vie de la population congolaise.
Oui, on sait tout de même, monsieur le gouverneur, qu'aujourd'hui, on constate entre les budgets votés en province et les crédits effectivement alloués par la loi des finances, portant le budget de l'État 2013, il y a quand même cette distorsion. Est-ce qu'au niveau de la conférence des gouverneurs, cette question a été aussi abordée?
Oui, nous avons abordé la question. Vous savez, depuis 2007, il s'est observé une sorte de combat entre les provinces et le pouvoir central par rapport à la retenue à la source. Si je peux vous donner une idée, jusqu'aujourd'hui, l'enveloppe globale que le pouvoir central accorde aux provinces mensuellement était de 12 milliards. Avec la conférence de Kananga, on vient d'en ramener cette conférence à 15 milliards. Si on peut parler en termes de dollars, c'est autour de 15 millions de dollars. Donc si vous vous rendez compte, ce qu'on donne aux provinces aujourd'hui, ça a une valeur de 1 million de dollars par province par mois. Si vous comprenez le fonctionnement de chaque province et qu'on lui donne 1 million de dollars, c'est la valeur de 1 kilomètre de route construite. Donc vous comprenez qu'avec ça, on ne peut pas booster le développement de la République si chaque province peut recevoir seulement 1 million de dollars au titre des rétrocessions. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, pour que la population voie exactement ce qui se fait, il faut qu'on analyse le budget de l'État, qui est aujourd'hui par exemple de 7 milliards. On nous dit, dans les 7 milliards, nous pensons que au niveau central, on peut fonctionner avec près de 3 milliards de dollars, et que les autres 3 milliards de dollars pourraient être réservés au projet d'investissement. Si par exemple chaque province pouvait recevoir un budget annuel de 50 millions de dollars, Cela permettrait au moins à chaque province de planifier 50 km de route asphaltée. Mais aujourd'hui, rares sont les provinces qui reçoivent 1 million de dollars le mois, c'est qu'il est difficile à un gouverneur de devoir raconter les préoccupations de la population, parce que dans les 1 million de dollars reçus, il y a le fonctionnement des institutions, assemblée provinciale, gouvernement provincial, et le fonctionnement régulier d'une province. C'est donc ça qui a motivé effectivement la nouvelle disposition retenue de la province de Kananga pour que le gouvernement comprenne qu'elle n'a pas d'autre espace à part les provinces où doivent s'exécuter les projets. Donc ce sont les provinces qui constituent le territoire national, et si donc il est réalloué les moyens suffisants, cela va rencontrer les besoins de la population, parce que les gouverneurs, ils connaissent mieux les problèmes sur l'ensemble du territoire national, et à leur tour, ils doivent travailler en collaboration avec les entités territoriales décentralisées pour aborder les questions petites qui se retrouvent dans la population la plus éloignée de la République démocratique du Congo.
Avant de rejoindre les auditeurs, qui sont nombreux, qui attendent aussi d'intervenir, monsieur le gouverneur, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec cet effort, cet engagement du gouvernement, on est petit à petit engagé sur un processus, dans un processus de pouvoir nous éloigner de la rétrocession. Donc, en fait, nous risquons d'oublier, la retenir à la source, pardon, la retenir à la source.
Bon, je pense que la question, elle est fondamentale. Si on n'a pas réussi à avoir la retenir à la source depuis 6 ans, pour nous, nous avons estimé que ce n'est pas maintenant que nous allons l'avoir. Ce que les provinces ont dû réclamer la conférence de Kananga, c'est qu'on sente qu'il y a cette volonté de mise en œuvre de la décentralisation. Parce que beaucoup de voix se sont levées pour qu'il y ait une loi sur la programmation de la mise en œuvre de la décentralisation. Nous convenons que le gouvernement central puisse avoir beaucoup de problèmes, mais nous convenons également que la population nous regarde, la population voit ce que nous sommes en train de faire. Et que donc, s'il faut commencer même tardivement aujourd'hui avec une quantité qui approcherait les 30%, je crois que ça nous aiderait. Mais au niveau du gouvernement central, on a aussi un autre argument. On dit par exemple les charges qui sont liées à l'éducation, à la santé et à l'agriculture, mais qui devaient devenir aux provinces, continuent à être payées par le gouvernement central. Et le gouvernement central prend toutes les dépenses faites dans ce secteur pour considérer qu'elles font partie des 40% qui devraient être rétrocédées aux provinces. C'est comme ça que il y a un jeu, un débat houleux entre province et pouvoir central par rapport à la considération des 40%. Pour le pouvoir central, il approche les 40% parce qu'il continue à dépenser sur les compétences qui devaient revenir aux provinces, et il met toutes ces dépenses-là sur l'enveloppe de 40% qui devait être retenu à la source par les provinces.
081-890-63-15 pour participer à ce débat, et vous pouvez également nous envoyer à l'adresse à notre courriel pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs.
Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Olivier, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, Monsieur Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, et il a expliqué ce qu'a été la spécificité de cette troisième conférence des gouverneurs tenue la semaine dernière à Kananga. Alors, d'après vous, est-ce que vous pensez que l'engagement du gouvernement central permettra d'améliorer les conditions de vie des populations?
Ok, merci Thierry. Moi, je pense que c'est un engagement de plus, comme on en a déjà eu, un engagement de plus, qui n'aura pratiquement pas de suite. Personnellement, je suis pessimiste, je dois vous le dire, et la raison est bien simple. Ça fait plusieurs années, comme il a dit, que le gouvernement central, d'abord, dit ne pas avoir d'argent pour les différents investissements. Et il n'a jamais eu suffisamment d'argent pour faire la rétrocession que les provinces attendent. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que pratiquement toutes les assemblées provinciales ont décrié la même gestion depuis qu'elles sont là. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, a-t-on changé de type d'homme pour gérer cet argent si l'argent devait arriver? Alors, troisième chose, j'ai comme l'impression que nous continuons toujours à placer la charrue devant les bœufs. Je me demande, je prends l'exemple de M. Guiné Paluku, dans quoi va-t-il investir aujourd'hui dans cette province qui est déchirée? Dans quoi va-t-il investir? Moi, je pense que les gouverneurs auraient dû prendre des résolutions beaucoup plus urgentes qui concerne la vie des populations. Et si, si nous prenons le cadre de la promesse du Kiev, si vous ne maîtrisez pas du tout, je crois que c'est un prototype de province à problème. Et ce n'est pas l'engagement du gouvernement à donner des fonds. Alors, si c'est pour investir dans la sécurité, je peux accepter. Je dis, bon, on va investir dans la sécurité dans le Nord Kivu. Alors, M. Gilles Paulou, il prend l'idée, c'est vrai, j'ai besoin d'argent urgentement pour la sécurité de ma population. Là, ça va servir à quelque chose.
Oui, oui, Olivier, une chose est vraie, que chaque province a ses réalités, et je crois que même le plan d'investissement ne sera pas identique d'une province à une autre. Donc, je crois que ça doit être quand même différent. Nous allons voir ça avec notre invité, Olivier, à moins que vous ayez encore une autre inquiétude.
Oui, c'est vrai que c'est vrai, la spécificité, il y en a. Mais, le journaliste, prenez la situation du Congo aujourd'hui, toutes les provinces, vous avez dit ce matin, toutes les provinces ont d'abord le premier grand problème, un problème sécuritaire. Dans quoi va-t-on investir en dehors de la sécurité aujourd'hui?
Et vous êtes à Kikwit, dans le Bandundu, est-ce que vous pouvez proposer les priorités, s'il faut normalement travailler sur ces budgets d'investissement au niveau du Bandundu?
Au niveau du Bandundu, pour le moment, moi, je crois que l'agriculture peut nous aider à résoudre les problèmes de la famine dans la République. Si nous investissons dans l'agriculture, enfin pour nous, ça serait une première chose. Et à côté de l'agriculture, on prendrait les routes de cette agricole. Donc, pour moi, ce serait ça la priorité pour le Bandundu.
Merci beaucoup, Olivier. Edgar, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, Kananga qui a servi de cadre, hein, qui avait abrité d'ailleurs cette troisième session de conférence des gouverneurs. Vous êtes avec nous, Edgar, et vous avez suivi Olivier, qui est un tout petit peu pessimiste, hein, et qui ne croit pas à la volonté du gouvernement central de pouvoir travailler dans le sens vraiment du développement de nos provinces. Et Olivier a aussi insisté sur les assemblées provinciales qui n'ont cessé de décrier la mégestion au niveau des hôtels de gouverneur des différentes provinces, et il a même souhaité qu'au niveau, enfin, notamment du Nord Kivu, que ce budget d'investissement puisse beaucoup plus travailler sur la sécurité dans cette partie du pays, et il a proposé pour ce qui concerne la Bandundu qu'on puisse mettre beaucoup plus l'attention sur l'agriculture. Edgar, vous avez la parole. Est-ce que vous pensez que cet engagement du gouvernement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations?
Oui, merci, M. Thierry. Je suis d'accord avec ce que l'auditeur vient de dire. C'est une bonne initiative dans la mesure où les participants n'ont fait que se conformer à l'article 200 de la Constitution qui leur donne la mission de faire cette service et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à dicter à la République. Mais nous savons, monsieur J.R., que le problème de la retenue à la source de 40%, reconnu par la Constitution, souffre d'application jusqu'à ce jour. C'est ce qui me fait penser, J.R., que vraiment cet engagement est une tombe qu'on a creusée pour enterrer et oublier définitivement le problème de la retenue à la source de 40%. Mais je voulais juste poser une question à monsieur le gouverneur, Julien Paluru, qui est porte-parole. J'aimerais savoir à partir de quelle date on va commencer à décaisser cet argent. Merci
beaucoup d'avoir contribué à cette émission, hein, Edgar Kananga. Vous revenez sur ce que disait tout à l'heure notre invité, derrière la retenue à la source, et vous confirmez par rapport à vos propos qu'il s'agit là d'une tombe creusée pour oublier définitivement donc la retenue à la source. Voilà, monsieur le gouverneur, vous avez suivi les deux intervenants de tout à l'heure, et nous rappelons à nos auditeurs qui nous rejoignent à peine donc qu'ils peuvent composer les 081 890 43 39 pour participer en direct. Monsieur le gouverneur, vous avez suivi Olivier et Edgar. Que répondez-vous à leurs inquiétudes?
Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord préciser que j'interviens ici non pas comme gouverneur du Nord Kivu, mais comme porte-parole du gouverneur. Donc, oui. Et rappeler que l'article 10 de la Constitution dit que la conférence des gouverneurs a pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener au niveau central. Donc nous parlons de la politique générale du pays, on ne parle pas d'une province.
Tout à fait.
Alors, j'ai bien compris la préoccupation de M. Olivier qui a parlé de Kikwit, qui dit que c'est un engagement de plus. Moi, je crois que c'est un engagement qui va désormais nous verser dans la mise en œuvre de la décentralisation. Je crois que ce sont les populations locales qui vont en bénéficier. Il réclame qu'il y a une gestion qui a été longtemps décriée au niveau des provinces. Moi, je veux partager une analyse avec lui pour dire, nous avons vu par exemple à Kananga, où on a changé, on est au troisième gouverneur, parce qu'on parle de mes gestions. On a vu au Sud Kivu, où on est aussi au troisième gouverneur. Aujourd'hui, à l'Équateur, on va être au troisième gouverneur. Si réellement c'est la mes gestions qui était décriée, est-ce que la situation a-t-elle changé dans les provinces où on a changé de gouverneur depuis 2007? Ça, c'est une interrogation. Il faut que les gens comprennent. De deux, quand on parle de mes gestions au niveau des provinces, moi, je crois que nous étions dans l'apprentissage. Et les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux sont de nouvelles institutions qui ont appris, effectivement, comment fonctionner. Et tel que je l'ai dit au début, jamais les gouvernements provinciaux n'avaient reçu des budgets d'investissement. Les 300 000, 400 000, 500 000 qu'on donnait à chaque province constituaient uniquement les moyens pour permettre le fonctionnement de l'institution. Même si on amène un expert venu d'importe pays au monde et qu'on lui donne 400 000 dollars pour une province qui a la dimension des deux pays voisins, par exemple le Nord qui voit la dimension du Rwanda et du Burundi réunis, on lui donne 400 000 dollars comme frais de fonctionnement, comment peut-il investir et résoudre les problèmes qui touchent à la vie de la population? Donc, je comprends que beaucoup de gens n'ont pas connu ces réalités-là, et les gouvernements provinciaux, comme ce sont des exécutifs provinciaux qui avaient la main à la marmite, ont souvent été vilipendés parce que tout simplement les gens ne comprennent pas qu'il y a cette réalité-là. De deux, on place la charrue devant le bœuf, comme a dit M. Olivier, au Détroit. Il est vrai que lorsque les moyens vont être donnés à chaque province, c'est à chaque province de voir le plan d'action prioritaire qui a déjà été adopté et qui a requis la participation de toutes les couches de chaque province. Lorsque le Nord Kivu a les moyens, il a ses problèmes. Lorsque l'Équateur a ses moyens, il aura ses problèmes. Lorsque le Bandundu a ses moyens, comme m'a dit M. Olivier, il a ses problèmes, il va attaquer l'agriculture. Et le Nord Kivu, bien que nous connaissons la guerre, il y a des espaces où on peut encore attaquer les problèmes de la population à part l'insécurité, notamment l'agriculture, les problèmes des micro-centrales hydroélectriques. Donc, je pense que si ces moyens sont donnés, c'est davantage la population qui va en être bénéficiaire. Revenons maintenant sur M. Edgar de Kananga. Il dit que c'est une tombe creusée pour enterrer définitivement la retenue à la source. Je crois que la décentralisation est un processus. Aujourd'hui que la retenue à la source a été consignée dans la Constitution, d'un point de vue personnel, moi je crois que nous sommes la seule Constitution, ou nous avons la seule Constitution, qui a donné une quotité à répartir entre le pouvoir central et les provinces. Je crois que ça, et il faut le dire, c'est une démarche qui n'a pas été bien réfléchie lorsque la Constitution a été adoptée en 2006, parce que on devait mettre dans la Constitution une répartition qui devrait être définie par une loi organique. Mais lorsqu'on a mis un montant figé dans la Constitution, cela a bloqué la démarche, tant entendu effectivement que la RDC était en train de sortir petit à petit du marasme économique. Et malheureusement, c'est une disposition déjà arrêtée. Je ne parle pas au nom du gouvernement central, mais je crois que là aussi, il faudrait envisager une révision constitutionnelle pour que nous restions conformes aux réalités. Si par exemple aujourd'hui, le budget de l'État est de 7 milliards, avec tout ce que nous connaissons comme dette extérieure, engagement de la République, et que 40% soit tiré de ce budget-là, c'est qu'à un moment donné, on sent que la République risque d'être asphyxiée. Et que donc il faudrait qu'il y ait des assises profondes pour examiner la matérialisation de la retenue à la source de 40%, et voir si cela peut être possible, ou si on peut seulement dire qu'une loi organique devra établir progressivement comment la retenue devra se faire. Je pense que si cela est fait, ça aiderait les gens à ne pas longtemps crier par rapport à 40%, par rapport aux insuffisances constatées au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial. Voilà ce que je peux donner comme élément de réflexion par rapport aux deux intervenants de tout à l'heure.
Voilà, Tony est à Kikwit et Michel à Matadi nous ont également rejoints. Tony, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Tony, vous avez la parole.
Bon, je voulais juste poser la question à monsieur le porte-parole du gouverneur. Ma question est celle-ci. Bon, est-ce qu'il y a une équipe de suivi qu'on a mise en place pour faire le suivi du montant qui a été prévu, le montant de 15 millions qu'on a prévu pour les provinces? C'était ça ma préoccupation. Parce que M. Gilles, vous constaterez ensemble avec moi que dans ces pays, il y a toujours des histoires qu'on a beaucoup vécues. Il y a l'argent qu'on est affecté à une province donnée, et puis vous voyez que cet argent est utilisé pour d'autres fins. Voilà ma préoccupation.
Voilà, Tony, il faut retenir que lors de cette troisième conférence des gouverneurs, la première question à l'ordre du jour a été l'évaluation de l'exécution des recommandations de la deuxième session de la conférence des gouverneurs. Je crois qu'à ce niveau-là, ils ont eu à aborder cette question des comptes en comble hein, sur les 15 millions, et aussi comme participer aux soucis de développement. Donc, et ils ont également traité des questions sur l'état des lieux des provinces. Je crois qu'à ce niveau-là, on a pu quand même comparer ce que cela a donné comme résultat. Merci Tony d'avoir appelé. Nous prenons Michel qui est à Matadi. Bonjour Michel.
Oui, bonjour papa. Bonjour aussi à l'invité.
Voilà Michel, pensez-vous que cet engagement du gouvernement de pouvoir octroyer le budget donc, d'investissement au gouverneur pouvait permettre quand même d'améliorer les conditions de vie des populations?
Bon, moi je crois que ce n'est pas la première fois que nous ayons une telle conférence. C'était seulement une retrouvaille. Le gouverneur devait se retrouver, peut-être pour se saluer et se dire merci. Parce que, mon frère, ce qui est vrai, que les Congolais souffrent. Et eux-mêmes le savent, nos gouverneurs le savent. Seulement, on reconnaît aussi leurs problèmes. C'est que tout ce que les provinces produisent, par exemple notre province du Bas-Congo, tout ce que nous produisons va au gouvernement central. Mais on doit se poser la question, où va cet argent? Je prends l'exemple. Ici, dans la province du Bas-Congo, précisément Matadi, notre port de Matadi est le plus sale au monde. Mais c'est le port aussi le plus cher au monde en ce qui concerne les taxes. Si on connaît seulement la réalité avec nos péages ici, si avec une bonne gestion, on pouvait déjà faire écarter beaucoup de problèmes. Ici, au niveau de notre pays de Bakongo. Mais où va cet argent? On a. Bon. Dans quelques temps après, je ne cite pas les noms, il y a eu le premier ministre, celui qui est parti, dans un climat. Mais nous connaissons, il est devenu milliardaire.
Oui, oui, ne parlons pas, ne faisons pas des jugements de valeur, Michel. Allons droit au but. Est-ce que vous pensez que cet engagement.
La seule question, maintenant je pose ma question.
Posez rapidement la question. Ne nous versons pas dans les jugements de valeur.
Parce qu'ils ont déjà bouffé tout leur temps. Avec cet temps qu'il a resté, des 2, 3, 2 ans, est-ce qu'ils sauront, comment investir dans des provinces? C'est ça ma question.
Voilà, merci beaucoup. Donc,
le temps qui est passé, avec les temps récents,
Merci beaucoup Michel, tout en sachant que le budget a toujours été annuel, hein, quand on vote un budget, même si ils ont 2 ans, je crois que rien ne pourrait les empêcher à avoir un budget annuel par 2 fois, donc pour résoudre quand même dans une année ou 2 ans, ne serait-ce de questions primaires, des questions des bases. Merci beaucoup Michel, 081 890 43 39 pour participer à ces débats.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous revenons à vous, monsieur le gouverneur Julien Paloukou, porte-parole des gouverneurs. Vous avez suivi Tony de Kikwit et Michel de Matadi. Tony qui insiste sur la mise en place d'une équipe de suivi, qui fait le suivi et évaluation de toutes ces recommandations. Est-ce que il y a quand même de gouverneurs qui font ces suivis? Et d'autre part, ça nous pousse également à vous poser la question si les assemblées provinciales peuvent aussi faire le suivi évaluation ou contrôler la gestion même de ce budget d'investissement.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord répondre à Edgar. Il y a une troisième question à laquelle je n'ai pas répondu quand il disait quelle est la date.
Oui, à partir de quand
on va commencer à verser cet argent. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes encore réunis avec le vice-premier ministre et le ministre du budget, c'est même mardi. C'est pour effectivement qu'on puisse fixer toutes les modalités pratiques. Je crois que au plus tard, à la fin du mois d'avril, tout sera déjà mis en place. Pour revenir à Tony de Kikwit, quelle est l'équipe de suivi? J'ai bien dit au départ que si on a réussi à décrocher ces fonds d'investissement, il y a quand même deux préalables. Le premier, c'est que il faut que toutes les provinces puissent commencer par voter les édits provinciaux sur la passation des marchés. Parce que c'est la garantie de la bonne utilisation de cet argent. De deux, après que ces édits soient votés, il faudrait que le gouverneur mette en place les cellules qui vont maintenant se charger de la passation de ces marchés publics. Ça ne sera pas le gouverneur comme individu qui va prendre 500 000, 800 000, 1 million de dollars et commencer à décider comme il veut, il donne à un frère ou à un ami les marchés. Donc ça, c'est ça la garantie pour la bonne utilisation de ces fonds. De trois, maintenant, les assemblées provinciales doivent jouer le rôle de contrôle des exécutifs provinciaux. Si aujourd'hui on dit que dans telle province, on a transféré 5 millions, 10 millions de dollars américains en francs congolais, bien entendu, eh bien l'assemblée provinciale a à voir quelle est l'affectation qui a été faite à ces montants-là, surtout que en dehors de ces fonds d'investissement, chaque province continuera à recevoir les fonds de fonctionnement. C'est-à-dire, ce sont des fonds qui seront destinés uniquement pour financer les projets d'investissement parce que les budgets des provinces souffrent dans leur rubrique investissement. Revenons sur Michel de Matadi qui dit que ce sont des retrouvailles et le gouverneur ne se serait retrouvé. Où va l'argent? Finalement, le port de Matadi, il est le plus cher au monde. On n'a pas abordé que des questions d'investissement. On a aussi abordé des questions de bonne gouvernance. Par rapport au port de Matadi spécialement, le Premier ministre va diligenter un audit international pour effectivement qu'on puisse dégager un diagnostic organisationnel de ce port et de manière à faire ressortir pourquoi est-ce que les marchandises qui arrivent au port de Matadi à un prix donné arrivent à Kinshasa au prix double, triple ou quadruple. Donc cette question a été abordée et le Premier ministre va devoir effectuer une descente à Matadi pour devoir lancer cet audit international et permettre à ce qu'effectivement on comprenne pourquoi les produits sont chers à Kinshasa alors qu'ils arrivent à Matadi à très moins cher. C'est l'exemple de tous les poissons consommés à Kinshasa. Donc s'il y a des gens qui sont dans les circuits des commissions par rapport à cette question, la conférence a recommandé qu'on puisse y mettre fin. Lorsque M. Michel parle du temps qui nous reste, non, nous quand on est en conférence, nous parlons de l'avenir de la RDC, c'est-à-dire avec ou sans Julien au Nord Kivu, avec ou sans Jacques Mbadou au Bas-Congo, avec ou sans Kimbuta à Kinshasa, nous devons réfléchir par rapport à la République, pour que ceux qui viendront demain trouvent des instruments que nous avons déjà mis en place, qui leur permettront également de devoir attaquer les problèmes. Donc nous ne légiférons pas par rapport à nous-mêmes, nous ne faisons pas des réunions et des conférences par rapport à nous-mêmes, nous mettons en place des instruments qui permettront effectivement à ce que ceux qui viendront, même après nous, trouvent une machine qui peut déjà leur permettre d'attaquer au fond les problèmes de la population.
Merci beaucoup, nous prenons Deli qui est à Kinshasa et Eric à Likasi. Deli, bonjour. Deli, vous êtes avec nous ou Eric, vous êtes à Likasi, Eric?
Oui, monsieur Eric, je suis en ligne.
Voilà, Eric, vous avez suivi notre invité, vous avez suivi également vos prédécesseurs, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je voulais intervenir sur trois points. En ce qui concerne la bonne gouvernance et des provinces.
Oui, allez-y.
Parce que, si vous observez bien, nos partenaires tels que la FMI, la Banque mondiale, ils nous ont aidés dans ce domaine-là. Il fallait qu'il y ait une bonne gouvernance, une bonne gestion, tout ça au niveau des provinces, en ce qui concerne les finances publiques, et notre code en prévoit. Mais nous sentons la faisabilité a pris beaucoup de temps. Maintenant, ma question, c'est au niveau... Je m'adresse un peu au porte-parole du gouverneur, de l'expérience du gouverneur du Kananga.
Non, du Nord Kivu.
Du Nord Kivu. S'il peut nous donner un peu des garanties, hein. Comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il peut se justifier par rapport à ce retard que nous connaissons depuis la mise en place du code, en ce qui concerne la gestion des finances publiques, jusque-là, on ne voit pas les chaînes de la défense qui sont vraiment bien animées, tout ça en province, qui vont renforcer aussi le contrôle de, en ce qui concerne les finances publiques. Ça, c'est le premier point. Oui, le deuxième problème aussi, nous voyons les gestionnaires qui engagent des dépenses au niveau provincial, au niveau de la mairie, au niveau tout ça. Mais il n'y a pas de marché public, c'est parmi les préalables à ce qu'on fait la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là, en termes de garanties? Comme ça, on essaie de voir comment évolue la scène. Là.
Merci beaucoup, Eric. Nous prenons également Aloïs qui est à Kananga. Aloïs, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole à Aloïs.
Oui, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat, afin de me permettre de partager mon analyse ensemble avec vous par rapport à la question qui coiffe notre débat. Oui, cette conférence, comme on l'a bien suivi, a traité beaucoup de questions, dont le thème général était la cohésion nationale dans l'unité, une initiation du chef de l'État, bien entendu. Mais je voudrais un peu faire mon analyse un peu générale sur quelques points qui me semblent un peu sensibles. Primo, la cohésion nationale dans l'Union, à ce point, étant donné que cette initiative vient du chef de l'État, il faut saluer le courage et l'intelligence du numéro un de la majorité qui a compris que lui seul, avec sa majorité présidentielle, il ne peut pas bien diriger ce pays. Mais sinon, il faut l'apport de toute la couche sociale de la population congolaise, notamment...
Oui, Aloïs. Oui, s'il vous plaît, Aloïs. S'il vous plaît, Aloïs. Il y a eu beaucoup de points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de cette conférence. Nous n'allons pas nous pérorer, nous attarder donc à cela. C'est pourquoi nous avons pris juste la question sur les budgets d'investissement et pour voir si réellement l'engagement du gouvernement pourrait améliorer les conditions de vie de population, donc en laissant les provinces travailler en toute indépendance par rapport à cette question, est-ce qu'il y aura une certaine amélioration? Au fait, c'est ça le débat du jour, Aloïs. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir situé. Mon analyse alors à ce point serait celle-ci. Je vous dis que la question sera bonne au cas où il y a vraiment la volonté politique et si réellement on s'est maîtrisé réellement pour mettre en application ce qui est décidé. Parce que prendre une mesure est une chose, monsieur Gier. Mais la réalisation de cette mesure-là reste, sinon, la plus bonne de cette chose-là qui doit nécessairement aider à ce que cela puisse être réalisable. C'est pourquoi, à ce point, je demande au gouvernement de pouvoir arrêter ce qu'appellent les anglophones ou les anglais de self-interest. C'est-à-dire, on doit bannir le concept d'intérêt personnel de faire qu'on puisse vraiment avoir pitié de la population et je sais qu'ici il y a un peu de la volonté politique sera vraiment bien réalisable.
Merci beaucoup Aloïs. Galvani, vous êtes en Boujimaï. Quel est votre point de vue? Bonjour Galvani.
Bonjour Pierre, bonjour.
Votre point de vue?
D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord les initiatives ou les recommandations de la conférence de gouverneur là-bas. Parce que je crois que c'est un peu de mettre toutes les provinces en compétition, de se souffrir aussi et d'assurer leur développement. Mais là, et ces recommandations pour moi, c'est parce que théoriquement, bien sûr, le gouvernement a quand même les soucis de faire développer ce pays, bon, malgré tout ce qui est arrivé là. Mais néanmoins, que non, nous avons peur que ces décisions ou ces recommandations puissent rester d'être mortes. Parce que c'est pas que la première fois que toutes ces bonnes décisions sont prises. Il y avait aussi la conférence là sur les ressources minières à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui est déjà fait? La première conférence et la deuxième conférence de gouverneur,
Galvani, entre la conférence de Lubumbashi et la conférence des gouverneurs, il faudrait quand même préciser une chose, hein, la conférence des gouverneurs, elle est constitutionnelle. Et la conférence de Lubumbashi, bon, c'est une conférence ponctuelle qui est tombée par rapport à un besoin, par rapport à une réalité organisée par le ministère de Mines. Voilà. Bon, là, nous sommes devant les gouverneurs qui se sont réunis conformément à la Constitution et ils ont fait quelques recommandations, entre autres l'engagement du gouvernement d'allouer des fonds au gouverneur pour le budget d'investissement. Est-ce que vous pensez que cet engagement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations?
Évidemment, bien sûr. Si seulement si que tous les moyens sont mis en place et que toutes les provinces se mettent et que toutes les provinces soient bien servies avec les fonds d'investissement et que ces fonds-là soient bien gérés, une bonne gouvernance en gros au niveau des provinces, c'est là.
Merci beaucoup, Galvani. Monsieur le gouverneur, Julien Paloukou, vous avez suivi les trois autres intervenants. Quelle est votre réaction par rapport à leurs interventions?
Oui, merci beaucoup. Je comprends les soucis de la population congolaise par rapport au retard que la République est en train de mettre dans le développement. Mais cette même population doit comprendre que la République a traversé beaucoup de zones de turbulence. D'abord la dictature de 32 ans et puis les guerres successives depuis 96 jusqu'à aujourd'hui. Cela n'est pas quand même négligeable dans la refondation de notre État. Il faut que les gens ne puissent pas oublier si vite que aujourd'hui il y a des parties de la République qui ne sont pas sous contrôle total du gouvernement. Éric Delicacy a parlé de la bonne gouvernance. Comment ça va se faire? Quelles sont les garanties? Je crois que tous les États du monde, que ce soit des États de l'Europe occidentale, et qui ont commencé la décentralisation, continuent même jusqu'à aujourd'hui à décentraliser. La France, elle a commencé à 82, elle continue jusqu'à aujourd'hui à décentraliser. L'Italie a commencé à 70, elle continue à décentraliser. Et nous commençons il y a à peine 5 ans. Je crois que le processus dans lequel nous sommes engagés va devoir attaquer petit à petit les problèmes. Aujourd'hui, quand on voit, ne fût-ce que ce qui se fait au niveau des provinces, comparé à ce qui se fait depuis l'indépendance, il y a quand même des changements notables. Mais nous comprenons que la population voudrait avoir davantage de changements. Mais le plus grand obstacle, c'est la faiblesse de notre budget. Imaginez-vous un pays comme la RDC, 80 fois plus grand que la Belgique, a un budget de 7 milliards, alors qu'une commune en Allemagne fonctionne avec un budget d'à peu près 6 milliards, une commune. Donc vous comprenez que les 7 milliards rendus au prorata de 70 millions de la population, ça équivaut à environ 100 dollars par habitant par an. Si on doit s'expliquer en termes beaucoup plus compréhensibles, si les gens peuvent comprendre, notre budget représente 100 dollars qu'on doit distribuer à chaque habitant par an, et on lui dit, avec ces 100 dollars là, payez-vous les frais scolaires, payez-vous la sécurité, faites la route avec 100 dollars, payez vos soins médicaux avec 100 dollars pour une année. C'est ça la signification trop simpliste de notre budget. Donc les gens doivent comprendre que la faiblesse de notre budget aussi fait partie des problèmes que nous connaissons. L'Angola en 2002 avait un budget de à peu près 7 milliards comme nous. Aujourd'hui, il est à 66 milliards. Parce que tout simplement, lui, il a fini avec la guerre, il a commencé à s'attaquer au problème. Donc il faudrait que la population congolaise comprenne tout ça, qu'on peut bel et bien jeter l'anathème sur le gouvernement, sur nous tous qui sommes dans l'exécutif, mais même si on change aujourd'hui le pouvoir en mettant des gouverneurs, d'autres présidents, d'autres parlements, d'autres sénats, avec une faiblesse comme celle que nous avons d'un budget de 7 milliards, il n'y a pas un miracle à produire. Donc je crois que les responsabilités sont partagées, et ce sont les assemblées provinciales, elles, ils ont un national, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent le budget de l'État. Il faudrait que les députés soient aussi sincères envers la population pour dire, aujourd'hui l'État n'est pas en mesure d'attaquer tous les problèmes du pays avec un budget de 7 milliards, dont la plupart de ces montants-là est versé dans les budgets de fonctionnement. Donc voilà globalement comment je peux répondre aux préoccupations de nos trois intervenants qui ont le souci de voir la République sortir rapidement de ces bourbiers dans lesquels il est engouffré depuis plus de 50 ans.
Voilà, si vous permettez, monsieur le gouverneur, de lire un peu quelques correspondances qui nous sont parvenues. Joseph Apollo de Baraka au Sud Kivu, Baptiste Bezo Matembera de Kiwanja, Dieudonné Bala, Fidel Pote de Kananga, Georges Hussein Angui de Goma. Joseph dit ceci, c'est bien que le gouvernement ait alloué des fonds aux gouverneurs pour leur budget d'investissement, mais quels sont les secteurs qui seront concernés par ces investissements? quels en seront les vrais bénéficiaires, car il peut arriver que les gouverneurs investissent cet argent pour leurs fins privées. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre ici chez nous au Sud-Kivu, où presque chaque homme politique veut être actionnaire dans telle ou telle autre société, à l'instar des Banro. Qu'est-ce qui prouvera à la population la vraie affectation de ces budgets dans les secteurs tels que prévus? Baptiste Bezo dit ceci, c'est une bonne initiative, cependant moi je reste très pessimiste quant aux actions entreprises par nos dirigeants. Peuvent-ils faire le bilan des centaines de tracteurs et en coûter des sommes colossales pour le pays? Le vrai développement met l'homme au centre de toute action. Tant que le gouvernement n'aura pas satisfait au social des Congolais, toutes les actions serviront à remplir les poches des politiques. Dieudonné Bala, quant à lui, c'est encore de la tricherie et une augmentation de l'enveloppe des détournements dans la mesure où on les fait tout simplement pour accroître les opérations retour d'une part et le clientélisme entre les gouverneurs et les députés provinciaux. Fidèle Pote de Kananga, c'est une bonne chose pour permettre le développement des provinces, mais il faut une confiance politique nationale de la part de nos dirigeants. Et nous terminons avec Georges Hussein Angui de Goma, c'est une meilleure chose, mais est-ce qu'il y aura des suivis de ces fonds, monsieur le gouverneur?
Bien, merci beaucoup. Je comprends sincèrement que beaucoup de gens sont très très pressés à pouvoir résoudre le problème de la RDC, hein, qui sont malheureusement très très nombreux, qui ont été creusés depuis longtemps, qui se retrouvent dans un gouffre. Je crois que l'analyse que je viens de faire tout à l'heure est aussi valable pour les auditeurs ici, notamment Joseph, Baptiste, Dieudonné, Fidèle et Georges, comme vous les avez cités. Quels sont les secteurs qui vont être concernés par ces budgets d'investissement? D'abord, ce sont les secteurs qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, c'est-à-dire l'éducation, la construction des écoles, l'équipement de ces écoles, de la santé, l'équipement des centres de santé, la construction des hôpitaux, parce que ce sont là les problèmes qui touchent à la vie de la population. Trois, l'agriculture, parce que vous savez que la conférence a recommandé une sorte de zonage. On doit faire les zonages de la RDC pour savoir quelles sont les zones qui peuvent se spécialiser dans tel type d'agriculture. Les Kassai se spécialisent par exemple en maïs, le Nord Kivu se spécialise en riz, les Maniema se spécialisent à tel autre produit, et chaque province va devoir identifier les problèmes spécifiques qui vont faire l'objet du financement, de manière à ce que on fasse maintenant une sorte de corrélation au niveau interne pour que l'économie de la RDC puisse être interdépendante. C'est-à-dire, du Maniema où on produit les riz par exemple, on peut échanger avec les Katanga où on produit les maïs. Du Katanga où on produit les maïs, on peut échanger avec les Banu où on produit les maniocs. Donc ce sont quand même des stratégies importantes que nous avons analysées dans la troisième conférence des gouverneurs, et j'estime que il faut simplement laisser le temps au temps pour voir qu'est-ce qui va se passer. Cela ne dit pas qu'on ne va pas attaquer d'autres problèmes qui relèvent de la compétence concurrente, par exemple. Mais il y a des compétences qui relèvent de matières exclusives du pouvoir central qui ne peuvent pas être touchées par le gouvernement provincial. Donc les gens doivent comprendre que la Constitution a bien défini, au terme de l'article 202, 203 et 204, les matières qui relèvent de la compétence exclusive de l'État central, celles qui relèvent de la compétence concurrente et celles qui relèvent spécialement des provinces. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, au niveau de l'armée, on ne sent pas beaucoup de changements, il ne faut pas que la population commence à attaquer le gouverneur, parce que la défense ne relève pas des provinces. Il faut que les gens soient bien édifiés sur cette question. Il y a Jean-Baptiste qui a dit, je crois, que est-ce qu'on peut faire le bilan des tracteurs qui ont été distribués? Je pense que le ministère de l'Agriculture a déjà lancé une évaluation par rapport aux tracteurs. D'ailleurs, c'est ce genre de politique qu'au niveau de la conférence, nous avons nuancé pour dire il ne faudrait pas qu'au niveau central, on commence à dépenser au nom des besoins des provinces sans les connaître. Parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas besoin de tracteurs pour se développer, qui ont besoin d'autres choses. Il faudrait désormais que ce soit les provinces qui définissent les priorités, qui racontent les besoins de la population, et à partir de ces priorités, les budgets qui leur seront envoyés au type d'investissement vont devoir financer. Donc c'est de préciser un détail que nous avons dit évoquer de la conférence de Kananga. Alors on dit, mais ce n'est pas une tricherie, on va seulement augmenter l'enveloppe des gouverneurs pour se partager l'argent de l'État. Les assemblées provinciales sont là, effectivement, pour assurer le contrôle. À part les assemblées provinciales, il y a la Cour des comptes, qui est une institution qui dépend de l'Assemblée nationale et qui a mission de devoir contrôler toutes les dépenses au niveau de la République. Il y a l'Inspection générale des finances. Donc, ces trois structures-là, à savoir les assemblées provinciales, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, vont être comme des garanties de mise en œuvre de tous ces projets qui seront initiés au niveau des provinces. Mais comme je l'ai dit au départ également, l'autre garantie de mise en œuvre, c'est que la passation des marchés ne se fera plus de gré à gré. Elle va se passer à travers les structures de passation des marchés publics qui seront installées désormais en province. Nous avons décrié la passation des marchés qui se fait à Kinshasa, parce que souvent, quand ça se fait à Kinshasa, avec les entreprises de Kinshasa, qui ne connaissent pas les réalités, elles descendent en province et le travail qui y est réalisé n'est pas souvent satisfaisant. Donc je crois que ce sont là des mécanismes qui vont nous permettre effectivement de devoir nous inscrire dans la logique de la population, celle de voir ces problèmes être attaqués au niveau de la base.
Monsieur le gouverneur, si vous permettez, parce qu'on va conclure l'émission dans quelques minutes, on prend Rachel et Eric qui auront droit pratiquement à 30-40 secondes chacun. Rachel, vous êtes à ici, rebonjour. Oui, rapidement, vous avez 40 secondes, Rachel.
Oui, ça va, merci beaucoup. Oui, moi, je voulais tout simplement dire que ça, c'est la troisième conférence qui a eu lieu plutôt. Et la première conférence et la deuxième conférence, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné à rien parce que dans ces conférences, ce sont seulement les gouvernants qui donnent leurs envies, pas les populations. Mais si on cherchait à savoir, à avoir au moins l'envie de la population, ça allait améliorer au moins les histoires. Il y a aussi autre chose que je voulais dire. Si on fait qu'on veut faire pour améliorer la vie, comment améliorer la vie des populations, si on saisit, on cherche d'abord à réhabiliter les routes. Parce que si on dit que non, on va créer des entreprises dans des provinces, tout ça, là, ça ne sera pas tout le monde qui sera engagé, non. Si on
veut réhabiliter
les routes et tout ça, ça permettait déjà de débrouiller même aussi. C'est ça.
Merci Rachel. Eric, rapidement, nous vous accordons également la parole parce que vous êtes le dernier auditeur.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir encore accordé la parole. Hein. Je remercie aussi le gouverneur pour son intervention très brillante et vous sentez une certaine rationalité. Effectivement, un point aussi qui doit être relevé, ce sont les organes de contrôle qu'il faudrait aussi renforcer. Il a pas la valeur du budget qui est trop faible. Mais comment est-ce qu'on peut justifier cela? Parce qu'un budget de 7 milliards pour un grand pays comme le Congo ici, avec tout ce que nous avons comme ressources internes.
Voilà, je crois que par rapport au budget national, je crois qu'il n'est pas le mieux placé hein, pour expliquer cette question et surtout que ça ne fait pas l'objet de notre discussion de ce matin. Merci Eric tout de même d'avoir appelé et nous allons vous accorder la parole encore très prochainement. Monsieur le gouverneur, on va conclure avec vous par rapport à toutes ces interventions et aussi par rapport à la question du jour, est-ce qu'on peut encore garder l'espoir pour dire que voilà, il y a eu la première, la deuxième et la troisième conférence. La quatrième, peut-être, ce sera pour évaluer aussi les recommandations qui ont été formulées à la troisième. Question de voir quand même une lueur de développement dans ce pays.
Oui, mais merci beaucoup. Monsieur le journaliste, moi je pense que ce qui manque aux Congolais, c'est d'avoir une vision prospective. Nous réfléchissons souvent par rapport à l'immédiat. Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui et maintenant? Je crois que ce pays ici a besoin des réflexions prospectives, les gens qui se projettent dans l'avenir, dans 5, 10, 15, 20 ans, que devient le pays. Si on continue à réfléchir par rapport seulement à ce que nous devons manger aujourd'hui, je crois que le Congo tardera à sortir de ses bourbiers. Je reviens maintenant à Rachel. Je comprends la préoccupation de Rachel qui se trouve à Iziro. Je connais bien Iziro, c'était un milieu qui est totalement enclavé. Et pour le problème de Iziro, il faut uniquement des routes. Je crois qu'il doit rappeler cela à ces députés nationaux et provinciaux qui sont élus de cette circonscription pour qu'ils en fassent des préoccupations dans leurs assemblées respectives. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, chaque province va devoir financer les priorités qui rencontrent les besoins de sa population. Donc, pour Kisangani, par exemple, lorsqu'il va recevoir ses budgets d'investissement, eh bien, il ne tardera pas à s'attaquer, par exemple, au problème d'Iziro. Qui nous parle des organes de contrôle qui sont déficients. Je crois que effectivement, c'est cela que nous demandons tous. Le contrôle qu'on a vu par le temps passé, ça a été presque aussi des sortes de règlements de comptes entre gouverneurs de province et assemblées provinciales, parce que tout simplement, tous on était des apprentis depuis 2006. Mais maintenant que les choses sont en train d'évoluer petit à petit, on sent qu'il y a une sorte d'expérience qui est en train de se développer, même au sein des assemblées provinciales et au sein des gouvernements provinciaux. Donc je pense que la première législature ici, pour moi, il est trop tôt de commencer à juger de l'efficacité ou de l'inefficacité des gens, surtout quand on sait que c'est la première nouvelle expérience dans laquelle nous sommes engagés depuis 2006. De trois, je crois que M. Eric a compris finalement que avec un budget de 7 milliards de dollars, pour un pays qui a à la dimension de toute l'Europe occidentale, je crois qu'il est très difficile de devoir les développer. Et cette question doit revenir à nos députés nationaux qui doivent rechercher les ressources, parce que les gens doivent savoir que l'autorité budgétaire, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le premier ministre. L'autorité budgétaire d'un pays, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est à l'Assemblée nationale de devoir de retrouver des moyens pour les mettre dans le budget, de manière à permettre à ce que ce budget puisse financer les problèmes. Mais souvent, nous qui sommes de l'exécutif, on a toujours eu tendance que le budget nous appartient. Non, notre autorité, ce sont les assemblées délibérantes qui doivent voter le budget et nous les donner pour exécution. C'est une précision de taille que je me devais de restituer à l'ensemble de la population congolaise qui est en train de me suivre en ce moment.
Voilà, on ne peut pas se quitter, disons, sans pour autant vous poser cette question. La conférence a aussi recommandé la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation. Qu'en est-il?
Oui, exactement. Vous savez que avec cette répartition qui est faite au niveau des provinces, il s'observe des déséquilibres parce qu'il y a des provinces qui ont beaucoup de moyens. Je prends Kinshasa, je prends le Katanga, je prends le Bas-Congo. Il y a d'autres provinces qui n'ont pas suffisamment de moyens. Alors la Constitution a prévu que à ces provinces-là qui n'ont pas suffisamment de moyens, il faut qu'on crée une caisse qu'on appelle Caisse nationale de péréquation qui a 10% de toutes les recettes produites. Et cette caisse finance les déséquilibres créés à la suite de la répartition des 40% qui sont alloués aux provinces respectives. Nous avons demandé effectivement que cela soit fait au cours de cette session pour que l'Assemblée nationale vote la loi et que le Sénat puisse la voter à la deuxième lecture, de manière à permettre que cette caisse soit fonctionnelle et qu'elle permette également de devoir aider les provinces qui n'ont pas ces moyens, comme je l'ai dit, de devoir attaquer les problèmes et que la population commence à voir que les choses ont commencé à changer. C'est peut-être avec beaucoup de retard que nous le faisons, mais je crois qu'il n'est jamais tard si on veut le faire.
Julien Paloukou, nous rappelons que vous êtes gouverneur du Nord Kivu. Dans cette émission, vous intervenez en tant que porte-parole de la conférence des gouverneurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup et merci à tous les participants à cette émission.
Allô? 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 Mais qui ne répond pas?
C'est par ici que nous mettons un terme à cette production. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé. Gilles Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. La FIFA impose à la RDC d'annuler sa décision interdisant les rencontres sportives nationales dans les stades privés. Une position jugée comminatoire par le gouvernement congolais. Parole aux auditeurs en parle demain avec comme question principale comment mettre fin à cette polémique. Inscrivez-vous déjà pour participer à ces débats à notre courriel pa@radiocapi.net. A très bientôt.